Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Joël Miachon, bonjour.
Bonjour.
Et de Johannes Melsen, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous annoncer la nouvelle programmation de cette année des Nouvelles du Conte de Bordeaux, alors qui aura lieu du 27 juillet au 11 août. Il y aura comme sous-titre 30 ans d'histoire, 3 points de suspension sans fin, point d'exclamation. Alors ce titre, pourquoi l'avoir choisi ?
Bien, tout simplement parce que c'est la 30e édition du festival et que nous voulions marquer le fait que bon, des histoires, des contes, des récits, de la narration, ça fait 30 ans qu'on en propose au public. Mais que c'est sans fin, on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Enfin, on ne sait pas qui va prendre après la suite, quand nous serons... voilà. Mais ces histoires ne s'arrêtent jamais.
Vous parliez de suite de ce festival. Vous sentez venir auprès de vous les successeurs de ceux qui tiendront ce festival ?
On sent un rajeunissement de l'équipe. C'est toujours de bon augure.
Oui.
Ça permet de voir plus sereinement le futur. Et il est vrai que pendant 30 ans, entre ce qui n'était pas l'objectif, l'objectif de l'association n'a pas bougé en 30 ans, mais ce que sont les contenus véhiculés, ce que sont les formes véhiculées, même si on est toujours en théâtre de narration, en récit, en mythe, en conte, avec une dominance en direction du public adulte, ben, y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. C'est la séparation des deux approches, le conte en médiathèque et le conte sur plateau, c'est confirmé. C'est deux métiers différents. C'est deux approches de médiation différentes. Donc en 30 ans, on en a vu des choses. Et je m'imagine que là, avec les plus jeunes qui prendront le relais après nous, d'ici 2-3 ans, dans la mesure où l'humanité s'est toujours racontée des histoires, c'est pas là que ça va pêcher. Mais si les histoires sur plateau doivent continuer, je ne me fais pas trop de soucis que, un, il y aura matière, et deux, il y aura quelques personnes qui seraient d'accord de s'en occuper pour les 10 prochaines années. On ne va pas se lancer pour 30 autres.
Hein. Oui. On verra.
Oui, mais vous restez toujours enfant pour pouvoir les écouter, ces contes.
En fait, il n'y a pas besoin d'être enfant pour écouter des contes ou pour écouter les récits que nous proposons au public. Le conte a d'ailleurs beaucoup souffert. Enfin, l'art de conter par des artistes professionnels a beaucoup souffert de cette représentation qui limite au récit enfantin, au récit à destination des enfants. Et en fait, d'ailleurs, depuis très très longtemps, le conte n'était pas réservé aux enfants, et même pas du tout. Même dans les veillées, il y a plusieurs siècles, il y a quelques écrivains célèbres qui ont fait passer le conte à l'écrit, qui ont sorti le conte de l'oralité pour l'écrire, Perrault, les frères Grimm, pour citer les plus connus, et qui ont fait que leur diffusion pendant un long moment était un peu réservée aux jeunes enfants. Bon, voilà. Et puis après, c'est passé dans les albums, c'est passé dans les médiathèques, et c'était sous cette forme. Voilà. Mais quand on fouille vraiment et quand on discute avec des artistes conteurs et quand on lit autour du conte, eh bien, on se rend compte justement que ce sont des récits qui s'adressent à tout le monde. Et finalement, aux adultes, quoi, pour parler de leur vie, hein, pour parler tout simplement de la vie des autres à travers des récits imaginaires qui donnent un grand rôle à l'imaginaire et à l'inconnu, à ce qu'on ne voit pas.
Et le conte, c'est quand même quelque chose qui est universel. C'est pour ça que votre programmation, on peut la dire cosmopolite.
Et éclectique. Et visant beaucoup de public. Et voilà, elle tourne autour de beaucoup de sujets.
Cette édition, pour vous, c'est ça, du fait que ça soit la 30e, est-ce que vous avez tenté d'opérer une synthèse de ce que vous avez fait depuis 30 ans ?
Si synthèse il y a, c'est dans la forme. On n'a pas essayé de faire le top 10 de 30 ans de comptage, mais c'est d'essayer de montrer toute la panoplie de ce que ça peut être. Du coup, on a le conte traditionnel, on a le récit d'événements contemporains, place Tahrir. On a la lecture contée de livres anciens autour des récits érotiques du 16e, 15e, 16e, 17e. On a le conteur ancré dans la société où la culture rencontre le travail social et les lieux qui sont directement concernés par certains travaux d'insertion avec Ludovic Suleiman. On a le conte dans son approche poétique, dans le sens assez serré, avec vidéo Bruno Campiche, avec les géantes des rues de Prague. On a Massimo Schuster qui finalement, si on le restreint, oui, si on le zoome trop, on en fait un cours de physique. Si on le zoome trop, c'est un cours de physique, mais un cours de physique donné par un conteur. Donc c'est autre chose encore. Sachant que tout bon professeur, il peut compter un cours de physique.
Oui, tout à fait.
Donc en fait, on est là-dedans. C'est la panoplie des possibles formes que ça peut prendre. Et puis après, on a essayé de mettre des noms derrière. Et quitte à mettre des noms, autant essayer de retrouver les meilleurs représentants de cette forme-là.
Alors, je compte à peu près une quinzaine de spectacles pour cette édition, à raison d'une représentation par soirée. Il n'y a pas de jours de relâche pendant cette période.
Oui, il y a des jours de relâche et parfois il y a deux spectacles par jour. Disons que nous avons quasiment tous les jours de la semaine des activités, mais que le spectacle vivant, il est plutôt sur les fins de semaine. On a certes une randonnée comptée un mercredi, mais sinon c'est surtout jeudi, vendredi, samedi, les scènes ouvertes le dimanche. Donc à force de construire comme ça, on remplit la semaine, mais le spectacle vivant, il est avant tout jeudi, vendredi, samedi, sur ces trois jours, avec le samedi souvent un double spectacle en après-midi et le soir.
Et il y a une grande variété par rapport au public de présentation. Donc vous avez des représentations pour à l'adresse de la famille, d'autres pour adultes. Ce parti de répartir un petit peu, c'est une nécessité pour vous en fonction de ce que vous avez à présenter et ce que les artistes proposent.
On a envie de rester un festival du conte qui se dirige avant tout vers un public d'adultes. Un. Deux, on a créé une ouverture sur la famille, les jeunes accompagnés. On ne fait en fait presque jamais de contes que pour enfants. Donc on est sur des contes double lecture.
En fait, on a aussi une... Trois, je pense que c'est là-dessus que tu voulais venir. On a aussi une collaboration avec les accueils de loisirs de Bordeaux et d'Yolfi. Donc là, on cible un public jeune, à la fois en formation, enfin en initiation, découverte du conte avec une conteuse, Virginie Comagnicki, qui pour la deuxième année va donc... animer un stage pour des groupes de 8 enfants. Et ils sont en mini-camp dans un camping à côté de Poetzela. Et elle en prend 8 par demi-journée, alternées. Et ensuite, à la fin, ils ont une petite scène où ils vont... ce sera plutôt une plus grande scène cette année, parce qu'on va être en haut dans le château. Et en fait, les enfants ont un rendu de ce stage. Et de surcroît, les accueils de loisirs qui sont vraiment partenaires là, depuis plusieurs années, mais surtout depuis ces 2 dernières années, nous ont demandé un spectacle accessible aux enfants. Soyons très très clairs par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais pour l'ensemble des enfants inscrits dans les accueils de loisirs. Et de ce fait, nous aurons Taxi Compteur Adama Adepou qui viendra à Bordeaux le 9 août à 15h, mais dans l'après-midi, et dans la salle des fêtes de Bordeaux. Mais en fait, spectacle qui est pour ces 90 enfants qui vont venir là, et aussi pour tous les publics qui souhaitent venir voir le compteur dans l'après-midi, dans de bonnes conditions. Voilà. Certains pourront le revoir le lendemain, puisqu'il assure une soirée également. Voilà. Donc, ça, c'est l'évolution des partenariats, progressivement, qui fait que les choses vont dans cette direction.
Après, au niveau de ce regroupement autour de tranches d'âge, quand même, c'est avant tout pour que les enfants qui participent à la soirée puissent pleinement profiter de, oui. S'il y a double lecture, puissent pleinement profiter. Et puis, après, c'est bien évidemment les parents qui décident et qui savent très bien jusqu'où les enfants pourront suivre sur telle ou telle histoire. Après, amener de très très jeunes sur la littérature érotique du 16e, 17e, parfois extrêmement crue, mais jamais vulgaire.
Ça peut être un peu déplacé.
Ça pourrait être déplacé. Autant prévenir les parents. Et il est vrai que sur certains récits, même les récits, même traditionnels, peuvent parfois être extrêmement violents.
Oh, tout à fait.
Mais nous, on indique, et puis les parents, ils savent. Il n'y a pas 2 enfants qui se ressemblent.
Alors, ce festival est en partenariat, et vous avez le soutien donc de la région, du département, je crois, et oui. Puis de la communauté de communes de Bordeaux.
Dieu le fit,
voilà.
Des mairies également, c'est important.
Voilà, et ça, c'est une demande qui émane de ces organismes, le fait de devoir ouvrir un petit peu plus pour les enfants.
Ah non, il n'y a pas de demande liée à nos financeurs, sauf un, puisqu'on est, on a aussi un financement par la direction départementale de la cohésion sociale pour sa partie jeunesse, ex-jeunesse et sport, où là, effectivement, on souhaite qu'il y ait un travail très spécifique en direction du jeune public. Et maintenant, pour les autres partenaires, non, on va depuis 30 ans... On nous dit pas vous devez faire telle chose. Hein.
Non, bien sûr.
Voilà. Mais sinon, d'ailleurs, ça
nous poserait quelques problèmes. Je n'ai pas parlé j'ai juste parlé de demande. C'est pas une imposition. Hein.
Non, mais demande.
Non, en fait, nous on instruit le dossier. Parfois, Joël, avec d'autres membres du CA, vont le défendre ou vont le commenter auprès des services de la région, du département. Après, c'est clair que dans la mesure où le département paye ou participe ou nous soutient sur un projet départemental, la région elle nous soutient sur un projet à rayonnement régional. Et une intercommunalité, elle va bien sûr nous soutenir pour le projet qui, territorialement, lui concerne. Une intercommunalité ne va pas commencer à soutenir un projet qui est sur le territoire d'à côté. Donc c'est plutôt au niveau de territoire que ça se joue que sur les contenus. Globalement, tout le monde est d'accord que le conte, il doit s'ouvrir aussi sur la lecture à voix haute. Tout le monde est d'accord qu'il faut que la pratique amateur soit présente dans une action de ce type. Tout le monde est d'accord qu'un seul festival sur l'année, c'est bien, mais s'il y a des activités périphériques tout au long de l'année, c'est mieux. On est dans cette sphère-là. Et c'est là que ça se joue. Mais en fait, finalement, il y a 30 ans, on avait écrit les cahiers de charges à leur place. Parce qu'on s'était donné ça comme contrainte dès le départ.
Alors, place aux amateurs. Et pour ça, il y a les scènes ouvertes que vous proposez sur trois soirées. Hein.
Deux soirées et un après-midi.
Oui, oui, voilà. Et donc, ça consiste à faire intervenir des amateurs qui désirent s'exprimer, lire.
Qui désirent partager avec un public ce qu'ils ont envie de raconter et ce qu'ils ont envie de lire pour à la fois faire connaître, partager leur plaisir de le faire et puis se confronter aussi au public. Hein, parce que bon, les amateurs, souvent, ont ce besoin-là hein, de savoir en quelque sorte ce qu'ils valent quand ils sont devant un public, même s'ils aiment beaucoup raconter. Voilà. Donc en même temps, on offre des stages de formation. Voilà. On en a un qui n'est pas plein d'ailleurs, le stage avec Ludovic Souliman, le premier week-end, 28-29 juillet. Voilà.
Et puis autour de la scène, il y aura aussi les contes au marché hein, par Mathilde Arnaud. Oui. Donc je crois qu'elle agissait déjà les précédentes.
Tout à fait. Tout à fait.
Mathilde Arnaud avait fait des... En fait, un festival doit être présent sur le marché. Après, à lui de choisir la meilleure forme. Ça peut être un simple tractage, ça peut être un nombre impressionnant de membres de l'association qui font le tour du marché et qui sont en dispo pour faire un office de tourisme itinérant. On a trouvé que finalement, après deux années d'expérience, que cette forme avec un conteur ou une conteuse en itinérance, très visuelle, très attirant, mais qui se noie très bien dans la foule, avec des petites formes de comptage, sont finalement, c'est là qu'on a un bon ambassadeur. On a eu un bon retour là-dessus. Ça fait aussi que les communes qui accueillent, ben ça fait une animation de plus sur le marché. Et là, il s'agit donc de créer de Bourdeau et de Dieulefi. On essaie que ces choses-là ne soient pas isolées, que donc à chaque fois qu'il y a un mouvement de ce type sur une commune, on essaie qu'il y ait aussi au moins une rencontre littéraire ailleurs, pour que ça puisse répondre l'un l'autre.
C'est ainsi qu'à Cray, on a donc le 27 à 15h30 à la médiathèque, on a une rencontre avec un de nos conteurs qui vient sur le festival, Jad Darwish, qui est venu souvent, puis qui est quelqu'un qui a une assise importante dans le milieu artistique du conte.
Avec une autre rencontre dans ce domaine, avec Ludovic Souliman aussi, donc à la médiathèque de Bordeaux, le 12 août à 17h.
Le 2 août, oui.
Oui, voilà. D'accord. Et aussi, on va parler de Sophie Bisset, puisqu'elle participe à l'inauguration de la librairie. La librairie, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu typiquement ouvert au festival ou alors c'est une réelle librairie ?
Nous avions depuis fort longtemps une librairie sur le site du festival, le site principal. D'ailleurs, même avant qu'on soit dans la ferme des Manias, il y avait un bibliobus qui suivait les endroits où était le festival, à une époque où il était plus itinérant qu'aujourd'hui. Et on avait installé donc au Mania une librairie qui était ouverte le soir en fonction des spectacles. Et puis, il nous a pris l'idée de revenir à quelque chose qui s'était déjà fait par le passé, d'avoir une librairie dans le village de Bordeaux. Et là, pour le coup, c'est une librairie permanente pour 3 semaines, enfin, qui sera permanente parce qu'elle sera ouverte tous les jours, voilà, et pas seulement au moment des spectacles. Et donc, on nous a très amicalement prêté un local. Et ce local est organisé en librairie que nous allons inaugurer vendredi à 10h30. Voilà. Sachant que cette librairie est alimentée par
par la librairie de Dieu le Fils,
voilà.
Soe Gambad. Donc en fait, c'est une librairie permanente qui ouvre une filiale temporaire de 3 semaines autour d'une thématique et autour d'une forme d'expression. Parce que
une forme d'expression, oui.
Plus cette année, avec nos 30 ans, on ne va pas être sur une thématique précise.
Voilà, et donc Sophie Bisset qui est visible depuis vendredi 20 juillet, voilà. Jusqu'à la fin du festival, hein, au
chaque
10 août.
Chaque vendredi, hein, les vendredis à
11h,
à la librairie justement, voilà.
Et puis on va peut-être parler un peu plus longuement des artistes invités, les coups de cœur que vous avez peut-être aussi, sans vouloir vexer les autres, mais est-ce qu'il y en a certains qui vous marquent ?
J'ai un gros coup de cœur, quitte à vexer les autres, pour la compagnie Caracol, Café Ulysse, qui aura lieu le samedi 4 août, à la salle de fête de Bordeaux. Nous n'avons pas souhaité prendre le risque d'installer ce spectacle dehors parce que le vent et quelques gouttes d'eau auraient pu tout détruire et c'est des installations lourdes parce qu'on installe un réel cabaret. Donc on l'installera dans la salle de fête. Pourquoi ce spectacle? Pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'au niveau de sa forme, les gens ont poussé quand même... le projet jusqu'au bout. Il se traite du voyage d'Ulysse, il le contextualise aujourd'hui sur cette grande itinérance et le non-retour. Ils le traduisent en 4 à 5 langues, ce qui veut dire qu'il est simultanément raconté en langue de sourds, il est simultanément raconté en français, en arabe, néerlandais et allemand par moment. Ce qui en fait une telle musique, et on se rend bien compte que, je dis simultanément et traduit à tout moment, mais c'est pas vrai. Il y a des pans entiers qui ne sont pas traduits en français, mais on comprend. On comprend parce que la musique, et on comprend aussi qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Qu'on peut très bien suivre, d'autant plus que Ulysse, ils l'ont contextualisé, mais ils ne l'ont pas réécrit. Donc on peut très bien suivre cette histoire. Même si peut-être on connaît moins pour le plus jeune, mais c'est une très belle aventure, et c'est surtout une aventure humaine, une belle ouverture, et puis qui cale le conte dans notre société contemporaine, où des gens sur des bateaux, il y en a un paquet.
Ah oui, pour le moins.
Et vous, Joël ?
Moi, j'aurais tendance à dire d'abord, avant de parler d'un artiste, il y a un petit élément que vous avez oublié. On a cette année, pour cette 30e édition, organisé un colloque autour du conte. Est-ce que le conte peut nous aider à y voir plus clair dans le monde où on est ? Voilà. Est-ce que, en venant écouter des récits, est-ce que ça nous aide quelque part ? Donc là, on a un certain nombre de conteurs qui sont dans le festival et qui interviendront. En même temps, on aura des organisateurs d'événements, on aura du public, des conteurs amateurs, du public de nos spectacles, qui sans doute auront à cœur de venir un peu réfléchir avec nous, donc au Château de Poète Sélar le 31 juillet, avec toute une partie très ouverte, dans la mesure où... On souhaitait qu'il y ait un questionnement qui vienne un peu du public avant que les artistes ou les organisateurs donnent un point de vue, mais qui n'est qu'un point de vue, qui n'est pas la vérité. Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose ? Voilà. À part ça, eh bien, sur les conteurs, je pense que Ludovic Suliman a une place importante. Voilà. Hein, d'autant qu'il fait un travail considérable auprès du public et auprès des milieux sociaux. D'abord dans la région parisienne, dans la région de Lille, et même s'il est un peu, entre guillemets, exilé actuellement en Bretagne. Mais c'est quelqu'un qu'on a déjà vu, qui est très très proche des gens. Et je pense qu'il va nous offrir une très belle soirée en randonnée. Voilà, le 1er août.
Et d'ailleurs, Ludovic Soliman propose un atelier aussi.
Oui, oui. Hein, oui, c'est lui qui anime le stage destiné au public adulte pour avoir soit avancé un petit peu dans sa pratique d'amateur, soit avancé un peu plus, soit découvrir comment on peut compter après tout. Hein, on peut aussi s'y mettre parce qu'on a envie de s'y mettre. Voilà. Une autre figure aussi qui est venue il y a quelques années... Aïni Iften, qui va nous parler de la découverte des mots dans sa famille. Enfin, non, dans les familles d'origine immigrée aussi. Qui est le 9 août à 21h15. Éclipse, ça s'appelle. Et ne pas oublier notre spectacle qui va clore ce festival, Philippe Campiche, qui nous apporte toujours des choses étonnantes et assez extraordinaires autour d'un récit, donc la géante des rues de Prague. Et c'est une création récente.
Toute cette programmation est visible sur votre site internet, j'imagine, dont l'adresse est...
Nouvelle plurielle du conte toutsetient.org.
Comment ça se passe pour le public qui vient vous voir? Est-ce qu'il y a un public qui vient de loin et passer quelques jours à Bordeaux, rien que pour votre festival?
Oui, on a du public qui vient d'un peu partout en France. Alors bien sûr, majoritairement de la région Rhône-Alpes, Drôme, Ardèche, Rhône, Vaucluse. Mais on a du public qui vient de la région parisienne. Parfois qui vient du nord ou de plus loin vers le sud. On a un petit public suisse et
absolument.
Parfois un petit public belge.
Absolument.
Voilà. Et en fait, comme vous le dites, il y a des gens qui depuis longtemps viennent passer en gîte une semaine pour les nouvelles du conte. Ça, on le sait, ça fait partie de notre, entre guillemets, ce qu'on voudrait bien nous dire qu'on a un rôle touristique.
Il est vrai qu'à un moment donné, on avait fait une enquête très conviviale autour de la provenance des spectateurs et on se rendait compte que pour ce que la dominance des gens venait dans un cercle d'une heure de voiture autour de Bordeaux. Et cette... enquête démontrait aussi que finalement, on n'est jamais roi chez soi et que c'est peut-être au pays de Bordeaux que les gens pensent encore le plus que le conte est uniquement dirigé ou uniquement là pour les enfants. C'est parfois assez difficile d'essayer, pas d'expliquer, ça ne s'explique pas, ça se vit, mais pour le vivre, il faut avoir une chance. Et en fait, à un moment donné, on avait invité tout le canton sur invitation pour que les gens découvrent. Et tout le monde a envoyé ses enfants. Parce que c'est ancré que le conte est pour enfants. Et du coup, là, mais c'est bon signe et mauvais signe. Ça veut dire qu'après 30 ans, il y a encore du taf. Et ça fait aussi qu'en 30 ans, on a avancé, mais pas assez avancé là-dessus.
Et autour de ce festival, donc, il existe les lieux d'accueil pour les spectacles. On peut peut-être aussi parler de ces partenaires qui proposent leur propriété ou leurs locaux. On peut en citer quelques-uns. Par exemple, je vois la Ferme des Manias. Alors, ça consiste en quoi?
La Ferme des Manias, c'est une ferme, une ancienne ferme qui n'est plus en activité, qui appartient à une dame, une Française qui travaille à Sydney et qui nous met à disposition cette ferme en contrepartie de l'entretien. En fait, entre-temps, c'est un bâtiment avec hors eau, mais pas hors vent. Et du coup, en contrepartie, qu'on débroussaille pour contrer les feux de buisson. Et puis de jeter un coup d'œil à la toiture de temps en temps, parce qu'elle est très loin. Après, il y a d'autres gens comme la ferme de Perrache. C'est quelqu'un, un comédien, ancien comédien, professeur, qui s'est installé à la retraite sur la Drôme et qui en a fait de la ferme de Perrache à Bouvières un lieu qui fonctionne sur l'année avec des petites propositions de spectacle. Après, on a un gîte au bout du chemin, donc c'est à Bourdos. C'est des gens qui font du circuit court sur de la production agricole et qui ont un très beau lieu avec une très belle vue. Et du coup, ben, on a calé une scène ouverte là-bas parce que la scène ouverte, c'est un, le temps de la scène, mais c'est aussi un repas partagé. C'est un pique-nique partagé, c'est toujours très, très sympa. Autant le faire sur des beaux lieux et y être accueilli par de belles gens.
C'est la rencontre.
Après, on a le château du Poitzelard. Ben, c'est un grand lieu d'accueil. C'est un grand lieu de proposition culturelle sur l'année. C'est un restaurant. C'est l'atelier Eureka. C'est autre chose. C'est un lieu qui n'est pas strictement conçu pour l'accueil de spectacles, mais où il se passe quand même déjà beaucoup de choses et qui est partenaire du festival depuis 30 ans. Déjà le festival, ça veut dire quasiment tous les soirs, c'est la proposition y est. Parfois, il y a une proposition l'après-midi, parfois sur la journée, comme le colloque dont parlait Joël. Et puis après, c'est sûr que, déjà, du fait que le festival, il a gardé quand même une petite notion d'itinérance, ça peut aussi donner des envies. Oui. Que le public, ils ont vu une autre vallée, finalement, ils l'ont vu pour la durée d'un spectacle ou d'un buffet, et puis le lendemain, ils y retournent. Et après, bien évidemment, l'équipe du festival, c'est pas restrictif, mais c'est un plus. Nous sommes des gens du coin qui organisons un festival du coin. Donc, lors des échanges avec les compteurs ou avec l'équipe organisatrice, on peut proposer, parce que nous sommes nous-mêmes randonneurs, nous sommes nous-mêmes visiteurs des expositions qu'il y a, on peut guider les gens comme un petit office de tourisme bis. Oui. Après, comme dit Joël, bien sûr, l'office de tourisme dessous de Bourdeaux et de Dieu le Fit. Et d'ailleurs, à un autre niveau, beaucoup plus sur la diffusion de plaquettes, les offices de tourisme de Die, de Saillant, de Cré, nous soutiennent, chacun à leur, à leur niveau, soutiennent le festival.
Eh bien, Joël Miachon et Johannes Melsen, je vous remercie d'être venus nous présenter donc cette 30e édition des Nouvelles du Comte de Bourdeaux et qui auront lieu du 27 juillet au 11 août.
Merci beaucoup.
Et merci. Bonne soirée à vous. Au revoir.